I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu, l'émission où on résume toute l'actu du jeu vidéo. On parle mobile, PC, console, industrie, tout ce qui compte, tout ce qui est important. Mais ça, c'est d'habitude, parce qu'aujourd'hui, on a un épisode spécial, un épisode un petit peu différent. On va parler de jeux vidéo et d'histoire, et ça va être absolument passionnant. D'ailleurs, entre parenthèses, merci à Obiseb qui avait suggéré ce sujet sur le Discord. Vous savez que sur le Discord, on s'amuse beaucoup, il y a plein de gens super sympas. Donc, si je vous manque, parce qu'il y a moins d'épisodes peut-être pendant les vacances, eh ben, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord, et je suis sûr que vous trouverez votre bonheur. J'ai oublié de dire mon nom, je suis Patrick Béja, et j'anime donc toutes les semaines, plus ou moins, donc sauf peut-être pendant les vacances, cette émission. Et aujourd'hui, je suis accompagné de deux personnes qui, elles, savent de quoi elles parlent, parce que moi, ce n'est pas forcément mon cas, hein, j'étais un cancre à l'école. Et du coup, bah, je ne savais pas par qui commencer. Puisqu'on parle d'école, on va commencer par William. Salut William, comment vas-tu ?
Salut, salut Patrick, ça va très bien, merci.
Merci à toi d'être là avec nous. Et je disais, on a Albert de l'autre côté aussi, hein. On va se présenter avant de faire les vraies présentations. Bonjour Albert.
Bonjour Patrick.
Alors, William, je parlais d'école, donc j'ai pensé à toi. Pourquoi est-ce que j'ai pensé à toi ?
Parce que je suis professeur d'histoire-géographie en collège, depuis presque 10 ans, je vais sur ma 10e année, et j'enseigne l'histoire avec les jeux vidéo. Non, c'est un métier merveilleux. c'est un métier où on se renouvelle tous les ans. Les publics et les classes changent tous les ans, les élèves sont toujours différents, donc c'est un métier qui demande de s'adapter.
D'accord, c'est bien. Bonne réponse diplomatique, tout ça. Mais donc, tu es là, bien sûr, parce que tu es un merveilleux prof d'histoire géo, mais aussi...
Évidemment.
Mais aussi parce que tu t'intéresses beaucoup aux jeux vidéo et aux aspects de l'histoire dans les jeux vidéo. Et tu as ta chaîne YouTube, Histoire en jeu, où tu parles de ces sujets. Ça fait longtemps que tu as ta chaîne ?
La chaîne est née en 2017, il y a 5 ans, où je voulais faire sur YouTube ce que je faisais avec mes élèves, c'est-à-dire de l'analyse critique de jeu, pour faire progresser l'esprit critique sur le jeu, faire de la vulgarisation historique par le jeu, et permettre d'en apprendre un peu plus sur les métiers du jeu vidéo et le processus créatif des équipes qui fabriquent ces jeux.
Et du coup, la chaîne Histoire en jeu, bah, elle est disponible. Vous pouvez déjà aller vous y abonner avant même d'avoir écouté l'émission. Mais ça m'inspire une question tout de suite. Tu ne fais pas tous tes cours en utilisant des supports jeux vidéo quand même. Il y en a des...
Non, c'est une question qui revient souvent. Et ouais. C'est un peu le cliché du prof qui joue, etc. Et en fait, j'en parle énormément et je ne parle quasiment que de ça, même sur les réseaux sociaux. Donc, on a l'impression que je ne fais que ça. En moyenne, c'est vraiment une fois par trimestre avec mes classes, et c'est vraiment une moyenne, des fois c'est moins, et l'idée c'est que ce soit pas automatique. Dans une scolarité, pour qu'elle soit très bien, qu'elle soit parfaite entre guillemets, il faut que les élèves aient vu une multitude de médias, une multitude de supports, une multitude d'approches. Moi je fais assez peu d'analyse cinématographique, mes collègues le font. Du coup, moi, je m'occupe du côté jeux vidéo. Et en fait, au final, sur toute leur scolarité, ils auront vu un peu de tout. Et c'est très bien comme ça.
Et du coup...
Ce qui est très intéressant, au passage, je trouve, parce que, c'est que la manière dont on parle, en tout cas, je trouve ça assez intéressant. Parce que c'est vraiment... tu mets sur le même plan jeux vidéo, cinéma et tout ça. Le jeu vidéo a la même légitimité que le cinéma pour, en tant que support pédagogique, on dirait.
Ben pour moi et puis pour l'association des Clionautes qui supporte mon travail, et c'est un fait, de la même manière que les mangas, les BD et toute œuvre culturelle doivent être analysées et regardées avec le même regard et pas un regard condescendant, quoi. Enfin, c'est n'empêche, les jeux vidéo, c'est les premières œuvres culturelles vendues dans le monde, c'est les plus pratiquées. On peut pas dire le jeu vidéo c'est le mal, surtout on va pas s'en intéresser, on va pas le mettre à l'école parce que les élèves jouent beaucoup déjà chez eux, etc. Au contraire, on est là pour accompagner ces jeunes qui manquent d'accompagnement sur ces supports-là, pour leur apprendre à mieux les regarder, à les regarder avec un regard un peu scientifique, même s'il ne faut pas enlever forcément le côté ludique et le côté fun. Hein. Si on met du jeu en classe, c'est aussi pour jouer. Donc il faut aussi prendre, avouer, prendre le temps et laisser la manette aux gamins et les laisser jouer.
Du coup, ça je pense que personne dans l'audience du rendez-vous jeu ou parmi nous te dira le contraire. Mais dans l'administration, dans ton entourage, c'est aussi clairement accepté ou t'as encore parfois à faire les batailles du genre « mais si, le jeu vidéo, ça peut être sérieux, intéressant, machin » ou maintenant, on est à une époque où, bon, tout le monde comprend.
Il y a plusieurs niveaux. Au niveau des chefs d'établissement, je n'ai jamais eu aucun blocage parce que j'arrive jamais avec ma console en disant « je vais faire jouer à ce jeu parce que c'est cool », etc. J'arrive toujours avec une démarche pédagogique. Il y a toujours des compétences que je veux faire travailler, des connaissances que je veux faire travailler, acquérir ou réviser. Donc il y a forcément un processus pédagogique derrière et une réflexion pédagogique derrière. Et j'arrive jamais avec un jeu en disant « voilà, ce jeu-là, il est cool, donc je vais l'utiliser. Je dois aborder telle thématique ou telle compétence parce que c'est dans mes programmes scolaires. » Et je sais que ce jeu, travaillé de cette manière ou abordé de cette manière, va me permettre de les aborder ou d'aborder la mémoire, mais on en reviendra, la mémoire de ces notions, de ces connaissances, etc. Mmh. Parce que les jeux restent des représentations du passé et pas le passé, on y reviendra. Donc au niveau des chefs, pas de problème. Au niveau des élèves, alors, je n'en parle même pas.
Oui, j'allais te demander.
les élèves, c'est combien, trop cool du jeu.
C'est ça. Pour quel pourcentage d'élèves es-tu le prof préféré de toute leur vie? C'est ça la question.
En fait, quand ils voient la console tous, et puis après, je commence à mettre des mauvaises notes comme tous les profs, parce que je peux quand même évaluer. Et bizarrement, je baisse un peu dans leur estime. C'est un peu décevant, mais bon, c'est comme ça. On n'est pas là pour se faire des copains.
D'accord.
Et après, au niveau du rectorat de Clermont-Ferrand, parce que je suis à Clermont, au contraire, c'est vraiment valorisé. Et depuis 3 ans, non, j'anime une mission centrée sur la ludicisation et l'usage des jeux vidéo dans les classes pour accompagner les collègues qui voudraient utiliser ces outils, ces médias. Donc il y a un accompagnement qui est proposé au niveau du rectorat et même au niveau du ministère. Il y avait une mission qui est un peu en stand-by pour le moment autour de l'apprentissage par le jeu numérique. Mais c'est valorisé au niveau du ministère, donc il y a vraiment dans l'institution aucun souci. Après, on va pas se mentir, il y a des réticences parfois de certains parents, mais on va dire que ça se débunk assez facilement parce qu'on va expliquer pourquoi on fait ça, et c'est normal qu'ils nous demandent des explications sur ce qu'on fait avec leurs élèves, avec leurs enfants, pardon. Ce sont mes élèves et leurs enfants, et pas l'inverse. et des grosses réticences de la part de certains collègues. Et finalement, les plus grosses réticences, ça vient des collègues qui jugent notre travail, mon travail, via les réseaux sociaux, via des articles de presse qui peuvent sortir et qui sont forcément trop synthétiques. Et qu'on ne peut pas tout développer, parce que le grand public s'en fout un peu de notre tambouille interne, donc on essaie d'être le plus pédago là-dessus. Mais voilà, donc on...
D'accord.
Le plus grand mal, c'est sur les réseaux sociaux.
Écoute, on n'a jamais entendu ça. C'est hyper intéressant, on pourrait en parler longtemps, mais ce n'est pas le sujet spécifique de cet épisode, donc on va, je suis sûr qu'on évoquera des éléments de cette discussion aussi pendant l'émission, mais il faut quand même... Fais attention à ne pas trop frotter ton micro sur tes vêtements, s'il te plaît, William.
Pardon.
Mais on a aussi, du coup, le côté encore plus sérieux, institutionnel de cet épisode. C'est Albert, alors est-ce qu'on peut dire Albert Devanve? Je sais pas.
Albert Devant, en tout cas, c'est le pseudonyme que j'ai choisi depuis un moment, oui.
Donc Albert,
je viens de là-bas. Qui, je viens de cette ville nulle que personne ne connaît.
Mais tu rigoles, Vance, c'est super bien. Non seulement qui a un master en histoire médiévale spécifiquement, mais qui en plus travaille au musée de l'armée à Paris. Donc là, c'est carrément le poids de l'histoire, en plus du poids de l'enseignement de l'histoire qu'on a sur cette émission. Je vais me sentir assez, comment dire, assez illégitime, mais donc je vais me contenter de poser beaucoup de questions. Mais avant qu'on se lance, du coup, même question, première question, Albert, tu peux nous dire un petit peu d'où tu viens, ce que tu fais, ton histoire?
Alors, pour être tout à fait honnête, Patrick, c'est la première fois qu'on me pose vraiment cette question. Et je me suis jamais vraiment posé moi-même, c'est-à-dire que ma bio sur Twitter, c'est « médiéviste du virtuel ». Mais c'est un petit, c'est venu avec le temps, c'est-à-dire que à la base je me rendais compte que je m'éloignais surtout un petit peu de mon appétit pour l'histoire, et c'est quand le confinement a frappé, je me suis dit mais pourquoi est-ce que il y a plein de jeux qui qui parle de ce que j'aime bien, c'est-à-dire le Moyen-Âge. Et donc, je me suis demandé si j'avais pas au moins une chaîne Twitch, un truc comme ça à faire. Finalement, l'activité a beaucoup évolué en 2 ans. Je suis limite beaucoup plus actif sur Twitter, où je fais beaucoup de fils qui développent certains thèmes qu'on voit dans des jeux vidéo. Et certains, ou certains objets, par exemple les sorcières, les fantômes, on a aussi forcément la manière dont on a d'éclairer les jeux par rapport au Moyen-Âge, les tavernes du Moyen-Âge par rapport à celles qu'on voit dans les jeux, tout ce genre de thèmes qu'au final il me manquait un support concret, c'est-à-dire que Twitch forcément il y a ce côté très live, et forcément n'ayant aucun skill de montage, je n'avais aucune manière de rendre tout ça permanent, enfin pérenne. Et grâce à Twitter, j'avais des traces écrites de toutes ces réflexions que j'avais. Je dois dire que maintenant, je m'intéresse beaucoup à ce rapport entre Moyen-Âge et jeux vidéo. J'ai notamment, très récemment, j'ai pu publier dans le cadre de la Twitter Conference de l'Université de Winchester. Donc, j'en suis assez fier.
Magnifique. Écoute, le lien vers ton compte Twitter sera dans les notes de l'émission, comme celui de William, évidemment. Mais pour le coup, le compte Twitter, c'est pas Albert Devanve, c'est Rélinus.
Oui, c'est at Rélinus, mais ouais. le nom affiché, c'est Albert Devanve. C'est juste que c'est un très vieux compte Twitter.
En même temps, si on cherche Albert Devanve, je suis sûr qu'on te retrouve aussi.
Oui, là, on trouvera Albert Devanve.
Très bien. Et du coup, je vais vous poser la première question vraiment qui rentre dans le vif du sujet. C'est une question couillonne, dont je suis sûr qu'on vous l'a fait subir toutes les 2 semaines. Mais est-ce qu'on peut apprendre l'histoire en jouant à des jeux vidéo? Alors, je ne sais pas qui veut prendre la réponse en premier.
Pour le coup, je crois qu'il y a un spécialiste ici.
C'est une question. Alors déjà, juste les fils d'Albert sur Twitter. Moi, je suis un grand lecteur, j'adore, et ça mériterait d'être mis en vidéo tellement c'est pointu et c'est hyper bien écrit. Donc première chose, voilà, j'adore ce que tu fais, c'est super.
mais j'aime beaucoup ce que tu fais aussi.
Ah, j'adore, super.
J'aime beaucoup ce que vous faites tous les deux.
C'est génial. D'autant plus
on se croirait sur les marches du festival de Cannes.
C'est ça, sans les flashs et tout.
Soirée des Césars, c'est ça.
Sauf, en plus, je suis médiéviste de formation aussi, donc je suis content que tes médiévistes arrivent enfin à percer. Peut-on apprendre? C'est une question. En fait, il va y avoir le oui et le non, il y a comment on l'aborde. Est-ce qu'un joueur qui n'est pas averti, qui va jouer à un jeu qui parle d'histoire, va retenir des choses sur l'histoire après avoir joué à un jeu? C'est oui et non. S'il a envie de s'intéresser à l'histoire que le jeu développe, au lore, aux différents personnages, aux paysages, etc., oui, si son objectif c'est juste d'avoir du fun et qu'il n'est pas là dans l'optique d'apprendre quelque chose, on va espérer que, de manière un peu implicite, le jeu lui fasse retenir quelques informations, mais le jeu n'a pas pour but d'apprendre, en fait, c'est pas un objet éducatif. Si un jeu devenait éducatif, on va aller dans le champ des serious games, et en fait, ce sont plus vraiment des jeux, hein, ça va être des objets éducatifs.
Il y a quelque chose qui synthétise bien ce que dit William, c'est-à-dire qu'il y a un gag qui revient souvent dans Joueur du Grenier, est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter Joueur du Grenier, qui est que chaque fois que le jeu commence à avoir un côté pédagogique ou à commencer à raconter des choses en rapport avec un thème historique ou quoi que ce soit, soudain, Joueur du Grenier fait « Attention, ce jeu essaie de m'apprendre quelque chose, au secours !» Et il y a limite une réaction de dégoût, parce qu'on a peur que soudain le jeu ne devienne plus un jeu, en tout cas qu'on enlève la partie fun et que ce soit uniquement de l'apprentissage.
Mais exactement. C'est bizarre ça qu'on puisse pas, que forcément quand ça devient pédagogique ou plus fidèle à une démarche d'enseignement, ou même pas, je vais pas dire d'enseignement, mais pour que les gens retiennent quelque chose, tout à coup ça devient chiant, c'est bizarre ça, c'est pas possible de faire un jeu qui soit effectivement conçu pour apprendre quelque chose en restant un jeu.
Je sais pas ce que t'en penses, William, mais j'ai comme l'impression que ça fait sortir de la diégèse du jeu à chaque fois. Ça fait sortir un peu l'expérience. Mais je pense que William aura une réponse plus nuancée à fournir là-dessus.
Non, mais je suis assez d'accord. Enfin, les jeux, déjà, pour faire apprendre des choses de base, même sur eux-mêmes, souvent, vont passer par des artifices qui sont très scolaires, hein. Les codex, les encyclopédies, enfin, si on pense civilisation, la civilopédia, mais même les vieux RPG avaient toujours cet aspect très textuel, très encyclopédie, pour apprendre des choses, il faut qu'on lise des choses, il faut qu'on lise le manuel, quoi. Et moi, je suis de cette génération qui a connu la fin des jeux boîtes avec les manuels où on passait des heures à lire les manuels pour apprendre le jeu, comment il fonctionne, etc. Les jeux ont appris à s'expliquer et à s'apprendre autrement. Il faut bien se rendre compte que même que ce soit un jeu historique ou pas, déjà de base un jeu doit s'apprendre en fait, enfin, et le jeu par essence doit apprendre à ses joueurs à ses règles de jeu, son mode de fonctionnement, et
mais une fois qu'on a maîtrisé ses
règles, il va pouvoir inventer ou trafiquer les règles ou les utiliser à son avantage.
Et mais du coup on a des nouveaux tutoriels qui vont quand même apprendre à maîtriser le jeu, mais qui sont des éléments, tu vois, qui sont des parties de ludiques quand même. Donc ça, ils y arrivent pour t'apprendre les règles du jeu.
Oui, ça va être plus interactif. Tu prends, moi, je fais jouer par exemple les élèves à Kaiser 3, donc sorti en 98. J'y ai passé des heures et des heures quand j'étais gamin, j'adore ce jeu. Mais en y rejouant avec eux, en fait, ils sont perdus parce qu'il faut lire des lignes et des lignes de texte pour comprendre les règles du jeu. Alors que tu prends les derniers Anno 1800 par exemple, ou même tous les jeux plus récents de stratégie, bah, en fait, ça va être un tuto où vraiment le jeu va lui dire voilà, appuie sur tel bouton, va à tel endroit, tu vois, tu as fait ça, ça donne telle conséquence. Enfin, c'est beaucoup plus, plus narratif, beaucoup plus interactif. Donc, c'est ça, aussi, le jeu a changé aussi.
C'est le truc, c'est que l'apprentissage de l'histoire, de manière générale, en tout cas ce qu'on peut retenir de l'histoire dans les jeux vidéo, la manière de l'enseigner déjà a beaucoup évolué aussi avec l'évolution du jeu vidéo tout simplement et l'évolution des tutoriels. On parlait d'artifice, aujourd'hui on utilise des trucs un petit peu plus subtils que juste des pavés de texte ou un manuel. Typiquement, moi il y a un truc que j'ai remarqué beaucoup, c'est que dans beaucoup de jeux qui se passent, pas seulement au Moyen-Âge, mais dans beaucoup de jeux historiques, on joue rarement un personnage qui est un citoyen bien intégré à la ville ou ce genre de choses. On joue en général un marginal, ce qui est super pratique, voire un personnage qui est complètement extérieur au monde, ce qui justifie le fait qu'en fait on est tout à apprendre du jeu, de son univers, et forcément de ses contrôles aussi, de vas-y, ouais, donne-moi un coup d'épée, appuie sur le bouton pour donner un coup d'épée, quoi.
Je suis d'accord, ça me fait marrer quand je joue à des Assassin's Creed où tu joues quand même un personnage qui est censé être grec par exemple ou égyptien et qui va quand même demander des infos sur c'est quoi Athènes, c'est qui Zeus. Pardon, mais normalement t'es censé un grec, tu connais ça, enfin je veux dire t'as lu l'Iliade et l'Odyssée, enfin on te les a lu racontés, etc. Donc t'es censé connaître cette culture-là, et c'est vrai qu'il y a cette déconnexion, mais c'est compliqué avec l'histoire parce que c'est un joueur contemporain, un joueur du 21e siècle qui joue à un jeu qui parle d'une période qu'il ne connaît pas, mais qui doit interpréter un personnage qui est dans ce monde qu'il ne connaît pas. Donc forcément, il y a une déconnexion, il y a un biais de contemporanéité, c'est comme ça qu'on pourrait le définir. Ouais. Mais tu vois, je rebondirais même sur ta question, en fait, il y en a une, et une question qui est même préalable à ça. C'est quoi l'histoire, en fait? Et c'est quoi apprendre l'histoire? Et quelle histoire on veut apprendre? Parce que pareil, t'as différentes manières d'apprendre l'histoire et t'as différents camps. Hein, t'as des gens, c'est l'histoire des grands hommes, d'autres, ça va être plutôt de l'histoire sociale, de l'histoire politique, etc. Et par exemple, tu vas jouer à Assassin's Creed Unity, tu vas pas apprendre grand-chose sur la politique révolutionnaire et sur les grands hommes, parce que Ubisoft a un peu biaisé le narratif de Robespierre, pour prendre que lui. Mais se balader dans les rues de Paris, dans le quartier, dans le Faubourg Saint-Antoine, ou dans le quartier autour de la Bastille, etc., tu vas croiser des personnages, des PNJ qui servent à rien, hein, et puis quand tu joues tu cours à côté, tu les vois même pas passer, mais tu vas voir des petits détails,
tu leur rentres dedans même,
oui, voilà, ou, par exemple, ou par malencontreusement tu leur mets l'épée dans le dôme, ça arrive, hein, de ces gens comme ça.
ça arrive.
Et tu vois, en fait, mine de rien, tu es dans un, si la représentation et si le travail de recherche il est bien fait, enfin, tu vas quand même baigner dans un univers qui est assez crédible historiquement, on va pas dire réaliste, on va parler de crédibilité historique, et tu vas te rendre compte d'un bassin culturel, d'une ambiance générale qui peut être assez intéressante aussi, et que ça, on va pas forcément réussir à le voir en classe, ou alors on va le voir par d'autres œuvres culturelles, des tableaux, mais en quoi analyser le tableau ou la description d'un auteur de l'époque serait forcément plus réaliste que la représentation d'un jeu vidéo, dans le sens où, certes, ce sont des témoins de l'époque, mais ça reste quand même leur regard sur la société, leur regard depuis leur place dans la société, sur le monde dans lequel ils vivent. Donc il y a aussi des biais, il y a une analyse critique à faire sur ces sources historiques qui nous parlent du passé. Et c'est juste que voilà, ça permet, ce sont aussi des machines à remonter dans le temps qui permettent de s'immerger dans des contextes. Et je prends un exemple, tu vois, Assassin's Creed Unity, pour le finir, il faut une vingtaine d'heures à peu près. Le cours sur la Révolution au collège, c'est 4 à 5 heures. Donc et on n'a pas le temps d'aborder tous les aspects, etc. Donc mine de rien, le joueur...
Il y en a non plus, d'ailleurs, on n'a pas vraiment le temps, hein, mais bon.
Attention Albert, ça, c'était très très fort le volume quand t'as parlé.
Pardon, désolé, j'étais très... Je disais, oui, pardon, désolé, mais Unity non plus n'a pas vraiment le temps.
Ouais. Hein. Oui, voilà, bien sûr, mais tu vois, tu vas quand même rester 20 heures dans un Paris 18e siècle qui aujourd'hui n'existe plus, que tu vas plus pouvoir arpenter, ouais. Et même s'il y a des biais, et voilà, le but c'est d'expliquer aussi comment le jeu a été construit, etc. Il y a plein de choses à dire, mais... Il y a quand même des petites réalités, des petits détails, des choses qui font que j'ai l'impression d'avoir compris ce que c'était un peu le Paris du XVIIIe siècle. Mmh. Même si t'as pas forcément compris les enjeux politiques, etc. Mais c'était pas forcément aussi l'objectif du jeu.
Du coup, je vais vous poser une question qui est peut-être un petit peu plus vaste et pas forcément facile non plus. Ouais, la question est hyper vaste. Mais je vais la poser quand même. Qu'est-ce que vous pensez de la représentation de l'histoire dans les jeux vidéo en général? Et là, vous allez me dire, mais des jeux vidéo, t'es gentil, il y en a plein de types, il y en a où c'est bien, il y en a où c'est moins bien. Mais si on devait vous poser la question en général, qu'est-ce que vous pensez de la représentation de l'histoire? C'est au niveau de la fidélité historique. Est-ce que c'est au moins cet aspect, on peut dire, pas dans tous les jeux évidemment, mais dans certains, ouais, là, ça ressemble. Ou est-ce que généralement, de votre point de vue de spécialiste, c'est genre... Bon, ils sont gentils, mais c'est comme quand on fait les hackers dans les films, c'est pas vraiment ça, quoi.
Bah, je répondrai par une réponse qui paraît un petit peu détournée, mais en fait, de toute façon, l'histoire, elle est partout. Elle est partout dans la pop culture, elle est partout autour de nous. On porte le poids en permanence de l'histoire et des traces du passé, de ses représentations. Disons que ça dépend du type de jeu, et ça dépend en fait de ce qu'on a envie de jouer. Et là, à ce moment-là, ça varie beaucoup d'un jeu à l'autre, en effet.
Mmh. Ça va dépendre des créateurs, ça va dépendre des studios, ça va dépendre de plein de choses, tu vois. Moi, j'ai joué à un jeu sur Jeanne d'Arc qui a été fait par des Japonais, c'est un beat'em up. Enfin, franchement, Jeanne d'Arc épée à deux mains... qui fait des hélicoptères avec son épée et qui trucide des hordes d'anglais et qui les finit à l'arbalète, quoi, et avec une carte de France qui est totalement au schtaps. Mais et du coup voilà, bon, et en fait tu joues à ça, tu peux pas penser que c'est crédible, enfin tu peux pas te dire ouais ça s'est vraiment passé comme ça la guerre de 100 ans, etc. Donc tu sens qu'ils ont envie de s'amuser avec ça, et donc en fait ça nous en dit plus sur l'image que la population aujourd'hui, les créateurs ont de l'histoire mondiale ou l'histoire de France, que sur vraiment comment c'est de dérouler l'histoire. Donc en fait, tu es vraiment sur de la représentation du passé et sur de la mémoire du passé. Qu'est-ce que ces gens, qu'est-ce que ces créateurs, et je pense que c'est encore plus vrai dans le passé, parce que les processus créatifs n'étaient pas forcément les mêmes. Qu'est-ce que ces gens pensaient du passé? Et il faut vraiment les contextualiser, parce que je reprends l'exemple de Caesar 3. Enfin, quand tu joues à Caesar 3, la version romanisation, tu as vraiment l'impression, quand tu joues à ce jeu, que les Romains sont arrivés sur des territoires qu'ils ont conquis, qui étaient totalement vierges, et qu'ils ont tout construit depuis zéro. Et alors que c'est pas du tout vrai, on sait que ça s'est pas passé comme ça, qu'il y avait déjà des indigènes, voilà, ou des Gaulois et autres, qu'il y avait déjà des oppidums, ou qu'il y avait déjà des lieux d'habitation, voire des ponts en fait, et c'est pas les Romains qui ont tout construit. Mais tu vois bien que dans les années 90, les historiens, c'est la thèse qui sortait, c'était la thèse dominante dans l'historiographie, notamment américaine, à ce moment-là en fait. Donc les créateurs, ils ont fait comme tout le monde, ce sont pas des historiens, ça faut aussi le dire, hein.
On parlera peut-être de la manière dont les développeurs, du coup, appréhendent cette partie de leur travail qui est celui de la fidélité historique. On en parlera
tout à l'heure. Mais tu vois, du coup, ils vont s'informer, ils vont lire 2-3 trucs et ils vont faire comme tout le monde, lire les bouquins grand public. Ils vont, maintenant, aujourd'hui, Wikipédia ou ce genre d'encyclopédie en ligne, etc., s'informer là-dessus. Et à partir de là, ils vont vouloir raconter une histoire, faire passer des émotions. Ils vont vouloir. Il y a cet aspect-là aussi dans le jeu vidéo, et le fait qu'il soit fun aussi. Et créer du jeu. Il faut qu'il y ait cet aspect de gameplay qui fasse que le joueur va s'amuser et va surtout jouer à leur jeu. Ça reste un objet commercial et il faut qu'il donne envie aux joueurs d'y aller. Donc ça suppose aussi, ça va déjà définir des choix de période. Enfin, franchement, il y a des périodes de l'histoire de France, même de l'histoire mondiale, qui ne sont pas traitées dans les jeux, parce que franchement, c'est même pas traité dans les manuels scolaires, parce que ce n'est pas des périodes qui sont fofolles, quoi.
J'insiste sur cette partie, enfin, comme quoi ces thèses historiques effectivement étaient aujourd'hui sont remis en cause et tout ça, mais il y avait en plus le choix de ces thèses n'est pas anodin, c'est-à-dire que le fait qu'effectivement on pensait que les Romains arrivaient et construisaient tout de zéro, c'est super pour un jeu de gestion, parce qu'on arrive, on construit un village. Pareil, Age of Empires 2, le fait qu'on commence à chaque fois, enfin que à chaque partie on recommence à l'âge sombre, c'est logique en termes de jeu, c'est-à-dire qu'on part de rien et on construit une grande civilisation, mais au niveau historique, effectivement, aujourd'hui, on conteste beaucoup plus cette thèse que genre, après Rome, ça a été le chaos et genre, ça a été un âge sombre. Le Moyen-Âge n'est pas reparti de zéro, quoi.
Du coup, ouais, c'est marrant, moi je suis peut-être d'une période où on voyait le Moyen-Âge comme... un peu plus sombre.
Vas-y, dis-le, Patrick, dis-le.
attention, tu satures, Albert, je sais que je t'énerve en disant ça. Mais du coup, je vais vous poser une autre question, un peu plus pointue. Est-ce qu'il y a des jeux dont vous vous dites, ah ouais, là, quand même, on est dans une représentation historique qui est vachement fidèle, quoi. Évidemment, rien ne peut être parfait. Et puis, comme vous le dites, il y a des choses qui évoluent même dans les domaines académiques historiques. Mais est-ce qu'il y a des jeux, évidemment, on va penser... quand on pense histoire, en fait, moi, en tant que béotien, je vais penser les Assassin's Creed qui explorent différentes périodes historiques, même si là, je me doute bien qu'ils prennent pas mal de liberté. Et puis, les jeux de gestion, les civilisations, les trucs comme ça, même si, évidemment, civilisation, pareil, tu vas avoir des options parce que c'est un jeu vidéo qui vont s'éloigner du truc. Mais est-ce que, ou même, je ne sais pas, peut-être que vous allez me surprendre et me dire un truc comme The Witcher, oui, le contexte est fantastique, mais on a des éléments qui sont assez proches de la période peut-être médiévale au Moyen-Âge. Donc, je reviens à ma question, est-ce qu'il y a des jeux dont vous vous dites, oui, là, la représentation est quand même assez fidèle?
Vas-y d'abord, William.
En fait, déjà, je partirais sur un constat très simple. C'est qu'en fait, tu peux pas jouer... Il n'y a aucun jeu qui est historiquement purement réaliste, parce qu'en fait, tu peux pas jouer avec l'histoire. Parce que le concept de jeu, c'est d'être acteur d'une histoire que tu as sous les yeux et donc d'influencer cette histoire par le gameplay que tu vas faire. Alors que quand tu joues... alors que l'histoire, elle s'est déjà faite. Donc si tu fais un jeu sur l'histoire pour revivre l'histoire... L'histoire, elle est déjà écrite, donc tu dois forcément refaire les mêmes actions que les gens du passé. Donc en fait, il n'y a pas de jeu. Donc,
c'est pour ça t'es que pas en train de lire un livre, assassins... en fait. Si c'est un jeu, c'est et forcément que ça s'éloigne.
Alors, après, il y aurait des stratégies. Ils n'ont pas encore évoqué, ils n'ont pas encore forcément tout exploré les possibilités, mais voilà, il faut bien prendre conscience de ça. Du coup, moi, j'aurais tendance à dire les meilleurs jeux, ce seraient presque les jeux qui permettent l'Uchronie. Tu vois, l'Uchronie, c'est des histoires qui ne se sont pas déroulées. C'est l'histoire des possibles. Et si Hitler avait gagné la Seconde Guerre mondiale, tu vois, c'est ce genre de truc exploité par la littérature, par le cinéma, les séries et tout, et les jeux s'en sont emparés. Et en fait, moi, j'adore jouer au Total War, alors, je suis un grand fan admiratif des Crusader Kings, même si je suis nul. Je suis complètement nul. Parce que j'ai pas un cerveau assez grand pour maîtriser et gérer un territoire aussi grand. Je pourrais jamais être roi de France ou président de la République, tu vois. Donc, mais par contre, Je suis admiratif de leur capacité à transcrire en règle du jeu des réalités sociales, économiques, politiques de l'époque qu'ils représentent. Par exemple, dans Crusader Kings, le concept de vassalité, le fait que tu ne puisses pas mener une guerre sans vassaux et que pour mobiliser une armée, il te faut des vassaux qui t'envoient des hommes, etc., qui est une réalité médiévale. Mais par contre, une fois que tu as cette règle-là, qui est une règle de l'époque, tu ne vas pas vouloir reproduire exactement la guerre de 100 ans ou une autre guerre ou un autre truc. Tu vas mener tes propres guerres en fonction des enjeux que tu vas te poser, des objectifs que tu t'es posés. Mais les règles qui vont te permettre de le faire seront des règles sociales, économiques, politiques de l'époque. Et en ça, du coup, tu apprends vraiment l'histoire. Mais moi, je suis vraiment un partisan de l'histoire sociale et de l'histoire culturelle. Et je suis moins dans l'histoire chronologique pure. Enfin, voilà, pour moi, l'histoire, ce n'est pas une suite de dates. Et c'est ce que j'apprends à mes élèves, l'histoire c'est une succession de choix faits par des acteurs petits ou grands, dans des contextes particuliers, en fonction de connaissances, d'éducation différentes, etc. Et ces choix ouvrent d'autres choix, et en fait quand tu penses l'histoire comme ça, tu te dis plus, ah, tu vois, je suis nul en histoire, je suis nul en date. Non, mais c'est pas ça le truc, c'est que si tu penses bien que en juin 40, quand De Gaulle il décide de faire son appel et de résister, c'était pas écrit d'avance, il décide à ce moment-là de faire ce choix-là, et ce choix-là va influencer tout le reste de la population française qui va devoir faire son propre choix. Et en fait, l'histoire, c'est ça. Et quand tu l'abordes comme ça, tu t'en fous que le jeu soit vraiment réaliste, tu vas t'intéresser vraiment à la situation dans laquelle le joueur va être mis. Et tu citais les Assassin's Creed. Moi, mon bilan, il est souvent. Mon bilan sur les Assassins, c'est celui-ci. Les trames principales sont souvent nulles et peu intéressantes, narrativement et historiquement parlant. Et par contre, les trames, tout ce qui est quête annexe, tout ce qui est univers vraiment optionnel entre guillemets. Là, ils vont aller chercher des points de détail, ils vont aller chercher des logiques de l'époque. Je prends un exemple dans Origins, quand tu es dans l'Égypte antique. Bon, t'as la trame principale avec César qui est un complotiste fou. Hein, pardon, j'ai un peu spoilé. Et à un moment, tu vois, t'es en plein milieu du désert et Bayek, le personnage, il trouve des vieux hiéroglyphes. Il trouve des hiéroglyphes qu'il n'arrive pas à lire. Et tu dis, mais pourtant, il est égyptien et machin. Il devrait pouvoir lire les hiéroglyphes. Cliché de l'égyptien qui sait lire les hiéroglyphes. Hein, je veux dire, c'est la langue, quoi. Sauf qu'en fait, sa réflexion dans sa petite ligne, c'est, mais en fait, ils sont trop anciens. Ce qui permet ils ont pris un fait, c'est que, mine de rien, les pyramides, ça a été construit. Alors, je vais pas dire de bêtises, je vais en dire une, mais tant pis. Des milliers d'années, des centaines, voire des milliers d'années, avant l'épisode de Cléopâtre et des Égyptiens du premier siècle avant Jésus-Christ.
Le truc qu'on dit souvent qui est saisissant dans la manière de le présenter, c'est que, on est plus proche de Cléopâtre que Cléopâtre n'était des grandes pyramides, quoi.
Exactement. Et tu vois, le jeu permet de montrer qu'elle était plus grecque qu'égyptienne, même si elle faisait croire que, enfin, elle parlait égyptien et tout. Mais oui, tu vois, par des petites quêtes annexes, des tout petits moments dans le jeu, les scénaristes ont réussi à faire prendre conscience de cette réalité-là. Donc, on peut pas dire que le jeu est faux. Par contre, c'est sûr que quand tu joues que 5 heures au jeu, que tu fais que un petit playtest et qu'on te demande de sortir une critique jeu le jour même ou dans la semaine, etc. T'as pas le temps de développer tout ça, de faire toutes les quêtes, etc. Et tu vas à l'essentiel, tu vas à la trame principale. Et là, ils sont allés dans la fiction. Mais d'accord. Comme des romans historiques vont dans la fiction et peuvent s'inspirer de faits réels. Enfin, il y a des réalités, mais par contre, voilà, ils vont jouer sur le petit silence, ils vont faire un petit pas de côté, quoi.
Donc, ce que je comprends, c'est, c'est qu'on n'est pas à 100% dans la... Enfin, aucun jeu n'est vraiment dans la réalité historique, dans une représentation fidèle dans son ensemble. On peut avoir des petites choses ici ou là. Et du coup, un petit peu la même question à Albert. Et je ne sais pas pourquoi tu me parles de spécialiste du Moyen-Âge. Moi, je reviens sur ma question sur Witcher 3, parce que Witcher 3, qui est une production européenne et un triple A fait en Pologne, on a l'impression qu'on est un petit peu plus dans le Moyen-Âge non fantasmé par des équipes américaines. Et je sais pas pourquoi, du coup, Witcher 3 me semble peut-être, par certains aspects, plus proche d'un Moyen-Âge un peu plus historique. Mais bon...
C'est aussi... Ça vient de manière générale de l'approche de toute la saga Sorceleur, en fait, de... Ah, j'arrive jamais à prononcer ça. D'Andrzej Sapkowski. Ça vient de la saga du sorceleur, de manière générale, est très marquée gritty fantasy. C'est-à-dire que, comme Game of Thrones, il y a cette envie de un peu tourner le dos à Tolkien et cette fantasy.
Ouais. C'est
cette
pas du high fantasy, c'est plus ancré dans le réel, quoi.
C'est ça, essayer d'ancrer dans, en tout cas, dans un sentiment de réel, dans un sentiment qu'on est un petit peu plus proche de la réalité historique. C'est pour ça que, enfin, je veux dire, dans The Witcher, au final, on passe beaucoup plus de temps au contact avec des conflits, avec des guerres qui sont parfois meurtrières et tout ça. On veut donner un côté sale, mais aussi on veut donner un côté très réaliste, où la magie n'est pas forcément quelque chose de présent partout, et donc dont la plupart des humains, en tout cas, se méfient. Et c'est là que c'est intéressant, enfin, pour rebondir sur la remarque de William par rapport au choix, c'est effectivement tout l'intérêt au final des The Witcher pour moi, ne serait-ce que pour représenter le Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'on est face à des contextes qui sont... le jeu, au fil de ses quêtes, distille des éléments qui ancrent dans la réalité d'un village médiéval, avec ses croyances, forcément, parce qu'alors des croyances qui prennent vie, hein, je veux dire, The Witcher, c'est plein de monstres quand même.
Oui, non, c'est sûr que... c'est pas... Quand on dit réaliste, on se comprend, oui, évidemment.
Non, mais voilà, mais on comprend qu'il y a beaucoup de quêtes qui, justement, montrent que ces monstres, ou en tout cas que l'intervention de ces monstres, rentrent dans tout un contexte social. C'est-à-dire qu'à la fin, il y a toujours en plus le fait que Geralt doit faire des choix, il doit faire des choix qui, souvent, vont avoir pour conséquence de remettre en cause toute la stabilité de la communauté dans laquelle il est intervenu. C'est-à-dire qu'éliminer un fantôme auquel tout le village croyait, que tout le village pensait qu'il protégeait les habitants et tout ça, alors qu'on se rend compte effectivement que le fantôme est parfois assez maléfique, Et ben Geralt va peut-être se débarrasser d'une menace concrète, mais en attendant, il est en train de saper toutes les bases morales et sociales d'une communauté villageoise. Et ça, c'est très important au Moyen-Âge, au final, de voir que justement, ça ne repose pas uniquement sur des histoires de rendre hommage au Seigneur et exploiter et juste aller à la ferme, mais c'est aussi, en fait, croire en des choses, avoir des relations de voisinage, avoir des relations avec sa famille. Tout ça est au final très riche dans The Witcher, parce que les quêtes sont bien écrites. Et en plus de ça, parce qu'il utilise beaucoup d'éléments historiques, il essaie d'ancrer dans un contexte très local.
Ben je crois qu'on comprend bien du coup que... alors vous me dites si j'interprète vos réponses, mais bon, on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment de jeu dont, dans l'ensemble, la représentation historique est fidèle. Encore que je vais vous poser encore une ou deux questions sur ce point précis, mais d'une manière générale, il y a des éléments qui, peut-être un petit peu de biais ou à côté de l'activité principale, vont pouvoir donner des contextes importants et peut-être même des contextes qu'on n'aura pas forcément ailleurs ou des manières de les représenter qu'on n'aura pas forcément ailleurs et qui, du coup, ben, on revient à ce que fait William, peuvent arriver en complément d'une éducation historique très classique pour améliorer ou pour agrémenter la chose. Mais ça ne va pas remplacer une éducation historique, ça ne va pas remplacer un cours, ou ce n'est pas avec un jeu vidéo qu'on va pouvoir tout à coup devenir un agrégé d'histoire. Les jeux vont peut-être éveiller un intérêt, ou je fais tousser Albert, ont peut-être un intérêt pour éveiller des passions ou des intérêts, justement, mais ce n'est pas ça qui va vraiment dispenser l'éducation. Même... Et là, je reviens à ma question. Même, je pense à certains jeux spécifiques ou même des modes comme Kingdom Come Deliverance, voilà, merci Albert, qui là, pour le coup, a comme ambition vraiment annoncée clairement d'être aussi proche, et ce n'est pas le cas de la plupart des jeux, mais aussi proche de la réalité historique que possible, ou alors les modes éducation, je ne sais plus comment ils s'appellent, les modes éducation des Assassin's Creed. Les Discovery Tours. Mais là, dans le Discovery Tour, on quitte le contexte du jeu vidéo vraiment à proprement parler, on est plus dans le musée interactif, je crois que c'est ce terme que tu utilisais d'ailleurs dans ta vidéo, William. Mais donc dans ce genre de cas, peut-être que c'est deux cas très différents, mais Kingdom Come et les Discovery Tours, est-ce que là, on peut dire que on a exceptionnellement dans le monde du jeu vidéo, là on peut dire oui, c'est vraiment fidèle, ou même là, vous diriez, c'est mieux, mais c'est pas ça encore. Albert, bah, je te pose la question. Ou bon, bah William. Bah,
non, vas-y Albert, c'est ton domaine, le ménage.
C'est-à-dire qu'effectivement, l'approche de Kingdom, tu parlais effectivement tout à l'heure de tous les de tous ces éléments effectivement qui sont distillés pour justement susciter l'appétit de l'histoire et tout ça. Kingdom Come Deliverance, c'est un cas assez intéressant parce que l'approche a été totale, c'est-à-dire qu'en gros, on essaie de vraiment de prendre tous les aspects d'un RPG en monde ouvert à la Oblivion. Tel qu'on l'attend, et on essaie en fait de voir si effectivement c'était comme ça dans la réalité à partir de toutes les sources qu'ils avaient et tout ça. Et c'est pour ça que notamment la moindre reconstitution de bâtiment a fait l'objet de l'analyse d'une historienne, de leur consultante historienne, la production du jeu était déjà très très intéressante. Ça signifie que à part un ou deux écarts, parce qu'il faut bien que le jeu se joue, c'est-à-dire que notamment dans les tavernes, tous les coffres sont magiquement connectés. C'est-à-dire que, quelle que soit la taverne où vous allez, vous retrouverez vos affaires. Mais c'est vraiment c'est le seul vrai exemple de grosse incartade par rapport à la réalité historique. Et la plupart du temps, le jeu essaie vraiment de vous plonger dans le Moyen-Âge et dans son univers. Mais c'est ça le truc, c'est que aussi l'historicité, ou en tout cas le caractère fidèle historique des jeux, ça dépend surtout de beaucoup de détails. Dans un jeu, on attend de pouvoir jouer et on a forcément des attentes, comme quand on commence un bouquin de fantasy ou qu'on commence une partie de jeu de rôle papier. Quand on dit on arrive dans une taverne, tout le monde a une image mentale d'une taverne du Moyen-Âge et la plupart du temps on va juger l'historicité, en tout cas la fidélité historique, au fait que est-ce que les développeurs se sont posés la question de est-ce qu'une taverne ressemblait vraiment à ça ou pas. Et malheureusement, la plupart du temps, du fait des délais de développement des jeux et tout ça, bah, il n'y a pas le temps d'analyser tous ces aspects. Et donc forcément, parfois même, c'est des choses qui sont... Kingdom Come Deliverance, c'est tellement riche pour cet aspect historique que forcément, on peut passer à côté de beaucoup de choses, ne serait-ce qu'au niveau pédagogique. Au final, on retient beaucoup de choses en y disant « Bon, allez, j'appuie sur N, j'ouvre le codec parce que là, il me dit « Hey, vous avez débloqué une entrée », que en vraiment en s'intéressant à tous les aspects qu'il y a autour de nous.
Mais du coup, tu veux dire que pour Kingdom... Mais j'arrive pas avec ce Kingdom comme Deliverance, même sur ce jeu-là, qui a une conception, vraiment, une profession de foi, c'est leur but historique, de faire quelque chose d'historiquement fidèle, tu dirais pas que c'est fidèle.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Eh bien, il y a des... en fait, c'est compliqué d'être exhaustif dans sa représentation de l'histoire. Kingdom Come Deliverance, par exemple, a fait... J'en ai pas mal parlé, d'ailleurs, de tout ça. C'est une des polémiques qui a accompagné Kingdom Come Deliverance à sa sortie, c'est notamment qu'il n'y avait pas un seul personnage racisé dans le jeu. Ce qui a été justifié par les développeurs, on est dans une région très isolée de la Bohème, c'est normal qu'effectivement, elles ne soient pas très connectées au monde. Ce qui se tient comme argument, même si... Ça se défend, ça se discute, tout ça. Mais de manière générale, le jeu essaie de nous dire « Regardez, c'était ça vraiment le Moyen-Âge », alors qu'en fait, on est dans un contexte très spécifique, qui est la fin du Moyen-Âge, les guerres en Bohème. On incarne un personnage, Henri, qui, malgré le fait qu'on peut légèrement modifier ses statistiques, dans l'ensemble, vient d'un certain milieu. Certes, c'est un transfuge, c'est-à-dire qu'on découvre, spoiler, mais on découvre un peu plus tard qu'il en fait, il serait peut-être fils de noble, et donc en fait, il a toute la légitimité pour aller se battre et tout ça. Mais on a donc cette idée qu'on incarne un personnage dans un contexte précis, et donc que forcément, on a un biais. C'est-à-dire qu'on est du point de vue d'un quasi-noble, parce que c'est plus facile au niveau des sources de se fier aux témoignages des personnes qui savaient lire et écrire. Que ce soit les moines ou les nobles. Et donc, vouloir dire qu'effectivement, le Moyen-Âge ressemblait à ça, donc que les paysans ne faisaient que travailler et tout ça, Kingdom Come Deliverance, mine de rien, adopte un point de vue qui est au final de représenter une histoire très classique du Moyen-Âge et de ne pas vraiment prendre position sur des sujets historiographiques très récents.
Donc, tu veux dire que même, au final, ce que je comprends à travers ta réponse, c'est que à partir du moment où tu veux faire un jeu, tu n'es pas en train de faire un cours, tu n'es pas en train de faire des recherches, tu n'es pas dans un contexte académique. Et du coup, pour quelqu'un qui est dans cet état d'esprit-là, tu as forcément, c'est inévitable, je ne vais même pas dire des partis pris, mais des moments où tu vas dire, là, on n'est pas en train de discuter de la véracité historique, donc on ne va pas mettre de nuances ou de contexte ou de machin, on va dire, on va décider, c'est comme ça qu'on veut représenter le truc. Et du coup, tu sors un peu... Ouais,
ça serait contre-productif. Ouais. Parce que, typiquement, dans le cas de Deliverance, ça reprend effectivement l'approche très monde ouvert des jeux vidéo. Et donc, une attente des mondes ouverts comme ça, là, Oblivion, c'est qu'on puisse sortir son épée et taper quelqu'un qui nous plaît pas. Dans le jeu, même au début du jeu, où effectivement on n'est qu'un pauvre réfugié, c'est possible. Et la seule sanction qu'on a, c'est de finir en prison. Or, un type qui n'est pas du coin et qui soudain se met à attaquer quelqu'un, il est pendu tout de suite, il n'a aucune réputation, il n'a aucun honneur, il n'a absolument aucune chance de pouvoir se défendre face à la justice. Et donc, ce serait game over tout de suite, quoi.
Il faut avouer que c'est moins palpitant pour un jeu, du coup, tout à coup, si dès que tu sors ton épée, tu finis dans les deux minutes pendu, game over, bon, ok. Encore que, ça pourrait être intéressant comme démarche, et tu recommences, et du coup, t'essayes de vivre dans le... Mais ben, personne ne l'a fait jusqu'à maintenant.
Mais tu vois, c'est une réflexion intéressante, parce que je vois pas pourquoi les développeurs s'interdisent de faire ce genre de transcription pédagogique. Enfin, t'as bien les modes dans les Diablo, là, les modes one shot, quoi. Enfin,
les
modes vraiment hardcore. Pourquoi tu pourrais pas avoir un mode vraiment historique pur où, enfin, tu veux vraiment.
Je pense que c'est possible, mais c'est pas la même approche, over, quoi.
C'est une approche volontaire du jeu.
J'allais dire Kingdom Come Deliverance rebute beaucoup de monde. Je veux dire, il y a beaucoup de monde, je veux dire, je vois des gens comme Dr. Bagarre ou Thibaut Icarius qui ont beaucoup de mal, ne serait-ce qu'avec son système de combat qui est très punitif. Le début du jeu aussi, où il faut, enfin, je veux dire, je connais tous les gens que je connais qui ont joué au jeu, ils ont rechargé au moins 10 fois pour arriver à crocheter cette foutue serrure au début. jeu est quand même déjà très contraignant. Et il faut vraiment en vouloir pour en venir à bout. Et il faut vraiment beaucoup aimer.
Oui, puis tu avais ce concept de sauvegarde qui était un peu bizarre. Enfin, en gros, soi-disant réaliste, il fallait que tu aies une potion, machin, etc. Mais bien sûr, mais après, ça reste un petit studio, une petite équipe.
Ah, c'est ça.
Et tu vois, t'en revenais au fait que tu disais, il ne faut pas de recherche, etc. Enfin, le studio était fait. C'est un jeu d'histoire nationale, en vrai. Hein. Enfin, l'équipe a voulu raconter l'histoire de son pays. Ancienne République de l'Est. Enfin, t'as aussi ce mouvement de vouloir raconter l'histoire, son histoire nationale, un peu roman national. Il y a aussi ce mouvement à comprendre, hein, quand les jeux polonais racontent le Moyen Âge ou racontent leur histoire, ou quand ils font des jeux sur la Seconde Guerre mondiale, sur le ghetto de Varsovie, ils nous parlent aussi de leur histoire, de l'histoire de leurs grands-parents, etc. Donc le contexte de création et l'histoire des développeurs et ce qui leur rapport à l'histoire aussi est vraiment important et à prendre en compte.
C'est ce que je comprenais au final de ce que disait Albert et de ce que tu dis maintenant aussi, c'est que quand on n'est pas dans un contexte vraiment académique dont le but est la recherche de la connaissance, et quand on est dans le contexte d'un jeu vidéo, d'un film ou d'un livre ou quoi que ce soit, on n'est pas dans un contexte académique. On n'est pas en train d'apprendre, donc il y a forcément des choix, des partis pris, des choses qui vont faire que on n'est pas là pour apprendre la chose, même si on essaye d'être aussi fidèle que possible.
C'est de la complémentarité. C'est-à-dire que maintenant, tu as beaucoup d'historiens qui, on va être très honnête, hein, les bouquins de 500 pages sont assez peu vendus. Ils inondent les bibliothèques universitaires et les étudiants qui veulent devenir profs les achètent, etc. Mais c'est pas des livres grand public. Et même les historiens qui se tentent à de l'écriture grand public, des essais ou des livres un peu moins intellectuels, souvent se font aussi bâcher parce que c'est un langage qui simplifie trop, etc. Et t'as beaucoup d'historiens qui vont maintenant faire de la BD, notamment l'histoire de France en bande dessinée, j'ai oublié le terme exact, mais t'as une série comme ça de raconter l'histoire de France en BD, tu vas forcément, en changeant de discours, en changeant de support, en changeant de média, devoir aussi transformer un peu ton discours. Et parce que tu vois, tu peux très bien faire des BD à la Tintin, et je sais que j'adore Tintin, mais par contre, qu'est-ce que c'était intellectuel, qu'est-ce que ça parlait, qu'est-ce qu'il y avait Tintin qui t'explique ce que c'est un miroir convexe et concave. Enfin bon, au bout d'un moment, t'en as soupé, tu vois. Alors qu'Astérix, c'était pas du tout la même manière d'écrire aussi. Donc la manière de vulgariser, de faire passer de l'information. Le jeu vidéo, c'est totalement différent. Tu dois mettre le joueur en action, en acteur d'une période passée. Donc ça suppose de reconstituer un passé, sachant que si un historien devait vraiment faire un jeu à partir de ses sources d'information, son jeu c'est à moitié vide, où il y aurait que des blancs, il y aurait beaucoup de blancs. Kingdom Come fait par un historien, il y a des éléments, des bâtiments qui n'y seraient pas, etc. Ce serait pas inintéressant.
Alors là il y a rien parce qu'il y a écrit on ne sait pas, tu vois. Il y a une,
exactement. Mais en fait, un historien doit avouer qu'à un moment il ne sait pas. Et en fait, il va dire, il y a de fortes chances que, vu que ça se passait comme ça dans le contexte, dans un autre contexte pas très loin, il y a de fortes chances que ça se passait comme ça. Et du coup, on va essayer de combler les blancs et de raconter une histoire complète, entre guillemets, mais les historiens le savent. Et Albert a dû être confronté au cas. Moi, dans mon mémoire, j'ai dû faire un mémoire avec la moitié des archives qui ont été mangées par des rats. Et donc, j'avais plus de sources sur le fonctionnement de la seigneurie au XIVe siècle, en fait. Et on fait comment ? En fait, je suis allé voir les seigneuries d'à côté. Il y a de fortes chances que ma seigneurie n'ait pas été communiste avant l'heure et qu'elle ait fonctionné un peu avec le même fonctionnement. Et donc, il me manque des données, mais voilà, j'ai vu que ça se passait comme ça. En contraste, il y a de fortes chances, vu qu'ils se parlaient aussi, que ça fonctionne pareil. Donc, d'où l'importance de d'avoir des consultants historiens, de savoir aussi s'informer soi-même. Il y a des game designers qui ont des bases de recherche. Et je pense Johan Rousseau, par exemple, c'est une des rares game directors et game designers qui m'a dit bah, « Moi, je suis allé sur Gallica, je suis allé à la BNF. » Première fois qu'on me parle de ça, enfin, avec ces mots-là, sans que ce soit moi qui souffle l'idée, en fait. Et l'industrie est aussi assez jeune, en réalité, hein, le jeu vidéo. D'autant plus le jeu vidéo vraiment photoréaliste, et, enfin, voilà, avec un nombre d'outils vraiment largement accessibles à tous, etc. Tout le monde peut faire son petit jeu dans son coin. Voilà, c'est aussi une industrie qui rentre dans sa phase de maturité. Et maintenant, on ne va plus avoir forcément des jeux AAA qui vont faire des millions et des millions. On va peut-être avoir moins des jeux AA, voire III, qui vont aborder des sujets plus délicats, des sujets moins ambitieux, faire des jeux voilà, sur 6 km², Kingdom Come Deliverance, c'est 6 km², hein, c'est ouais. Pas... C'est pas ouf hein, comme géographie. Hein.
Oui, mais... Ça, c'est pas la carte de GTA. Hein.
C'est ça.
Non, mais surtout,
entre parenthèses, attends, juste une seconde, juste pour dire, Johan Rousseau, qui est la CEO de Spiders, développeur de Gridfall, juste pour préciser pour les gens qui ne savent pas, qui a d'ailleurs déjà participé à l'émission, donc petite famille. C'est marrant que tu évoques Tintin aussi, parce que je pense qu'aujourd'hui, on porte un regard sur la manière dont Tintin représente l'histoire, un regard qui est assez différent de celui qu'on portait au moment de la publication des volumes en question. Donc, c'était intéressant que tu évoques ça. On va aussi parler en une seconde de ces Discovery Tours, parce que je pense que beaucoup de gens se posent la question. Et puis, on passera à la dernière partie et on parlera de la manière dont les développeurs justement font cette partie du travail qui est importante pour les jeux dans un contexte historique. Mais bien sûr, je n'oublie pas que Albert voulait ajouter quelque chose, donc je te redonne la parole tout de suite.
C'est justement sur Tintin et tout ça. En fait, c'est intéressant parce que ce que mentionnait William justement sur les consultants historiques, c'est marrant de voir que, comme il le dit, l'industrie est encore assez jeune par rapport à toutes ces questions, mais on voit déjà des évolutions. C'est-à-dire que ce soit pour d'ailleurs Ubisoft Montréal ou Warhorse Studio, donc qui est le développeur de Kingdom Come Deliverance, j'ai remarqué qu'il y avait le même schéma, c'est-à-dire qu'au début, la plupart des développeurs, ça leur casse un peu les pieds de genre de dire « Ah ouais, mais celui-là, on ne peut pas le mettre parce que genre c'est pas à la bonne époque, en fait. Ils demandent à la consultante « Est-ce qu'on peut mettre ce casque ?» Bah non, il est quand même un siècle plus tard, donc c'est compliqué et tout ça. Au début, ça leur casse un peu les pieds. Et ensuite, il y a la phase d'après. Immédiatement après, ils se prennent soudain totalement au jeu. C'est-à-dire qu'ils ont d'énormes engueulades parce qu'ils sont en train de se demander est-ce qu'on s'agenouille de tel ou tel côté.
C'est ça, j'avais entendu cette histoire.
Et c'est ça le truc, c'est que de manière générale, le jeu vidéo comme le cinéma ne se pose pas les mêmes questions pour ce qui est de la représentation du passé. Et d'ailleurs, ne se pose pas forcément les mêmes questions que les historiens. Les couleurs au Moyen-Âge, merde. Pastoureau, merci. Pastoureau qui a été consultant.
C'était fascinant cet échange entre vous là. On sentait celui qui avait oublié un truc vraiment important et moi à côté qui regarde. D'accord, oui. Mais Albert, Pastoureau, bien sûr.
Donc, Michel Pastoureau, qui est aujourd'hui un historien qui intervient souvent à la radio, il a été consultant sur Le Nom de la Rose. Et pour Le Nom de la Rose, il a dû faire des recherches sur des choses et demander l'avis de collègues qui eux-mêmes ne savaient pas vraiment. C'est-à-dire que, par exemple, une question pratique sur un tournage, c'est est-ce qu'on met la capuche aux figurants qui font les moines pour ne pas avoir à leur rajouter une perruque, donc ça coûte plus cher et tout ça. Le problème, c'est que est-ce que c'est cohérent qu'à cette heure-ci de la journée, à quel moment les moines mettaient la capuche ou pas ? Ça, eh ben, on n'a pas de source. Et c'est en fait, au final, la grande frustration des développeurs quand ils travaillent avec des historiens, c'est qu'ils leur répondent « je ne sais pas ». En tout cas, on sait que ce n'était pas comme ça, par contre, on ne sait pas vraiment comment c'était.
Ouais, donc il y a forcément des libertés à prendre.
Exactement.
Le Discovery Tour, je ne veux pas qu'on l'oublie, enfin les Discovery Tours, surtout que tu en as beaucoup parlé, William. Qu'est-ce que tu en penses du coup de ces outils ? On quitte le jeu. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, les Discovery Tours, c'est des modes spécifiques dans les trois derniers, je crois, Assassin's Creed, dans lesquels on utilise l'environnement du jeu pour faire des visites virtuelles, on va dire, avec des discussions en jeu et des codex, des textes écrits qui vont un petit peu plus loin. Donc le but est vraiment éducatif.
Oui, l'objectif à l'origine, le premier Discovery Tour est sorti avec Origins. L'équipe de recherche qu'Ubisoft a s'est dit, c'est quand même bête qu'on ait toute cette base de données, parce qu'ils ont vraiment un outil qui s'appelle le WTF, où c'est une sorte de Wikipédia interne, où en fait, il y a des conférences, des docs d'archives récupérées, en fait, c'est une bible historique, entre guillemets, et documentaire sur la période qu'ils sont en train de traiter, pour que les artistes, les narrative designers et toutes les personnes qui bossent sur le jeu, les level designers, sound designers, etc., puissent piocher et n'aient pas à faire leur propre recherche et qu'ils trouvent assez facilement si je dois mettre un vase, à quoi il doit ressembler, etc. Et ils se sont dit, toute cette base de données, en fait, on la distille un peu, on met un peu de codex, on met un peu de quelques trucs qui apparaissent, qui pop quand on visite un bâtiment ou quand on croise un personnage. Mais souvent, ça cassait le rythme du jeu et les gens, au bout d'un moment, ne les lisaient plus. Et puis avec Unity, c'était un peu perdu parce que les notices étaient écrites par les personnages du jeu. Du coup, ça mélangeait histoire et complotisme. C'était un peu chelou, un peu difficile à comprendre. Du coup, ils se sont dit, en fait, on va tenter un truc. On va réutiliser le moteur du jeu, le monde du jeu. On va enlever tout le côté armes, meurtres, etc. Et on va pouvoir... Et on va géolocaliser en fait des infos, des documents avec l'autorisation des musées, etc. Et on va lier certaines informations par des visites. Donc le premier Discovery Tour était vraiment en mode musée virtuel avec des visites guidées. Dans le deuxième, dans la Grèce antique, ils avaient gardé le même système mais rajouté des points à visiter, à découvrir. Donc ça poussait vraiment à l'exploration de la Grèce antique. Et dans le troisième, ils ont changé totalement mais beaucoup de braquets. Ils se sont dit, après avoir consulté plusieurs enseignants, dont moi, qu'il faudrait rajouter du narratif, rajouter du gameplay, rajouter des choses à faire. Et donc, en fait, c'est plus des visites guidées, on ne suit plus un audio guide, on est un personnage dans l'univers, et en fait, c'est une succession de quêtes. Donc, soit on joue un marchand viking, soit nordique, soit on joue un moine, soit on joue le roi Alfred. Le roi Alfred d'Angleterre.
Ah, carrément.
Et on va côtoyer des personnages. Alors c'est très blabla quand même. Il y a beaucoup de textes et il y a peu de cheminement et pour moi ça va pas assez loin. La vidéo est en train d'être écrite. Je devais la faire il y a longtemps, mais j'ai manqué de temps. Je devais faire court, c'est dommage. Mais voilà. Donc il y avait cette volonté de faire passer de l'info historique et ils sont encore en train de se chercher sur. Quelle est la meilleure manière de le faire? Est-ce que c'est méthode académique? Est-ce que c'est mode musée? Est-ce que c'est en mode plutôt game design? Et ils ont dit, je pense qu'ils sont en train encore de se chercher la quatrième mouture. Je pense qu'ils réfléchissent déjà à la quatrième, avec le futur qui va sortir je ne sais pas quand. Je suis quasiment sûr qu'ils réfléchissent déjà au Discovery Tour en même temps, en fait. Parce que mine de rien, c'est un outil qui fonctionne assez bien.
Ouais. Et donc, pour toi, on est quand même encore un petit peu trop passif dans ces Discovery Tours, même s'il y a une valeur documentaire.
Tout dépend comment... Si c'est vraiment, pour les joueurs, moi, je trouve que c'est top, parce qu'en plus, il y a des bonus dans le jeu, mais un joueur lambda qui, dans une vingtaine, trentaine d'années, qui a pu à l'école, il a son jeu assassin, il a une petite encyclopédie chez lui, et en fait, il va de temps en temps pouvoir suivre une visite, aller visiter, apprendre des choses, qu'on peut suivre la visite ou simplement lire les textes, voir les docs, il y a aussi des artworks des fois qui sont donnés et tout. Donc c'est que du bonus, parce qu'en plus c'est gratuit pour ceux qui ont déjà le jeu. Donc c'est tout bénef, c'est vraiment un mode en plus, c'est juste qu'ils ont décalé du jeu vers un autre jeu, c'est vraiment un autre mode, accessible depuis le menu du jeu. Après, vraiment penser ça comme un jeu éducatif à mettre entre les mains d'école, de collège ou de prof, machin, moi je pense que dans tous les cas, c'est comme n'importe quel prof, on ne prend jamais le cours d'un autre prof pour le faire tel quel, ça arrive jamais, en tout cas si on le fait ça foire, c'est obligé, parce que c'est pas notre cours, c'est pas nous qui l'avons pensé, donc on n'a pas bien la chronologie et c'est pas notre manière de penser. Donc en fait dans tous les cas, il faudra prendre l'outil, essayer de le trafiquer pour faire en sorte que ce soit marrant. Tu vois, je prends un exemple, j'ai utilisé le Discovery Tour avec des élèves de 6e, donc 12 ans, sur les pyramides et l'écriture, parce qu'il y a un chouette tour sur l'écriture en Égypte antique, parce que c'est vraiment un point du programme, l'écriture durant l'Égypte antique et la Mésopotamie. Et la visite se passe à Memphis, me semble, parce que ça fait quand même longtemps que je l'ai fait, et à des moments, du coup, il t'explique que les Égyptiens, ils écrivaient sur plusieurs supports. Bon, très bien, soit tu fais une fiche de cours avec des questions, et tu vois, sur quel support marquaient les Égyptiens ? finalement, tu fais comme quand tu vas visiter un musée. Tu as un questionnaire, les gamins, ils écoutent le guide ou ils regardent les fiches et puis ils écrivent. Qu'est-ce qu'ils vont retenir ? En fait, on n'en sait jamais trop rien. On n'a jamais évalué l'efficacité d'une visite de musée. Moi, je pose la question, parce que tu sais, on pose souvent la question, est-ce que le jeu, c'est bien en classe ? On va faire des études, très bien, mais est-ce qu'on a évalué l'usage d'un tableau blanc en classe, que c'est plus efficace qu'un tableau vert ? Est-ce qu'on a évalué l'usage d'un vidéoprojecteur ? Est-ce qu'on a évalué l'usage d'une visite en musée, de la venue d'un auteur, etc. ? On n'a jamais vraiment d'études. C'est au feeling, avec les élèves que tu as, avec le public que tu as, avec ce que tu as envie de transmettre et le dynamisme que tu as dans ta classe. Moi, je suis plus dynamique avec un jeu comme ça qu'avec un autre support. C'est comme ça, ça fait partie de moi. Et du coup, ils ont vu ça, je dis, on fait une pause. Là, du coup, machin, tu prends la manette. Trouvez-moi les supports dans la ville. Et du coup, on est allé chercher dans la ville de Memphis s'il y avait bien des hiéroglyphes sur les temples, s'il y en avait sur des tablettes, s'il y en avait sur les vases, enfin, sur les machins, etc. Et on est allé chercher partout, partout, partout. Et ils ont trouvé. Hein. Ils ont trouvé même une tablette posée au sol à l'arrache. Le level designer, il a dû la placer comme ça, mais sans volonté de transmettre une info. Je doute que le dev, il s'est dit... Ouais, vu qu'on en parle, on va forcément le mettre là, parce qu'en fait, c'est le même asset qui est mis à quatre coins du monde, parce qu'ils n'ont pas fait 36 millions d'assets. Hein. Et du coup, les gamins, ils sont allés en recherche de ça. Voilà. Et après, on va faire un travail sur les documents d'archives qui sont soit dans le jeu, soit nous, dans nos manuels et tout. Mais le but, c'est de faire naître de la curiosité et de l'appétence, tu vois. Et je pense que le jeu permet ça. Mais c'est le prof qui doit s'en emparer. Il ne faut jamais se dire, allez, je mets les gamins devant le jeu, ça va forcément fonctionner. C'est pour ça que les quêtes, c'est bien, mais du coup, ils essaient de remplacer le prof. Enfin, voilà, donc je pense qu'il y a encore autre chose à faire. Et ils avaient tenté un truc avec Odyssey, je finirai là-dessus. Ils avaient tenté un mode, un éditeur de quêtes. C'est-à-dire qu'en fait, c'était le studio créateur mode, et ils avaient créé un éditeur de créateur de quêtes. Et en fait, on avait tous les assets des personnages, et j'en ai créé une pour les rendez-vous de l'histoire de Blois de l'année dernière, et je pense que je vais le rejouer cette année. Et en fait, on joue un personnage... Et en fait, tu vas vraiment pouvoir le faire rencontrer Socrate, lui faire rencontrer un marchand et tout. Et j'avais fait, parce que le thème, c'était le travail. Et du coup, le but, c'était de faire visiter un peu la cité d'Athènes et les différents métiers. Donc, moi, j'avais fait rencontrer un vigneron qui manquait d'amphores pour stocker et vendre son vin. Donc, du coup, il fallait aller au quartier du céramique en français, à Athènes, où étaient les fabricants d'amphores, pour livrer la commande. Une fois qu'on avait récupéré l'amphore, il fallait la ramener, etc. Mais il fallait aussi livrer un peu de vin au médecin d'Athènes qui en avait besoin, parce qu'on sait qu'à l'époque c'était un remède notamment pour les femmes enceintes, etc. Et on visitait le port, les différents métiers du port, enfin voilà, et en fait tu pouvais créer ça, et en fait c'est ce genre d'outils, mais là tu vois on est dans la création de jeu en fait, mais on va y venir. Donc et c'est l'enseignant qui va créer son jeu, donc on est dans la combinaison de toutes les compétences, et quand on aura vraiment combiné tout ça, technicien, universitaire, scientifique, pédagogue, là on pourra parler vraiment de jeu pédagogique et de jeu efficace. Mais tant que chacun bosse dans son coin et essaie de faire son truc, soit on aura des jeux chiants, soit on aura des jeux débiles. Non, mais je schématise vraiment.
Je comprends. L'extrême, les deux extrêmes.
Mais c'est un peu l'idée, quoi.
Du coup, à ce stade, le Discovery Tour, il est utilisable comme un outil, un support, on va dire. Mais oui, il se suffit pas à lui-même. Ça sera marrant de voir.
Je suis ravi que tu dises. C'est exactement ce mot-là. C'est un outil comme. Un roman de Zola, comme un film de Spielberg. Je me rappelle, il y a quelques années, mais peut-être que vous avez vu, peut-être que toi, Patrick, tu l'as eu en classe, on montrait Nuit et brouillard aux élèves de collège et de lycée.
c'est vraiment pas fun. Bonne ambiance. Voilà.
Ouais, bonne ambiance sur la Shoah, etc. Et on le montrait, généralement, les profs, c'est ce qui était mon cas, voilà, ça, c'est la Shoah. Ouais, très bien. Et donc, Nuit et brouillard, pour ceux qui connaissent, parce que c'est un vieux film qu'on ne montre plus maintenant, mais c'est un film docu sur le camp d'Auschwitz. Et maintenant, on en est à dire que si on monte Nuit et brouillard, il faut faire une heure ou deux d'analyse critique de ce film-là pour montrer qu'il a un regard biaisé sur la Shoah et qu'en fait, il y avait un discours sous-jacent en dessous, etc. Mais en fait, on fait ça pour n'importe quel média. Tu regardes 1492 avec Depardieu en Christophe Colomb, mais en quoi prendre ce film-là et en faire une analyse critique, c'est plus débile que de prendre Anno 1400 ou 1500 ou n'importe quel jeu, machin, etc., qui te montre une certaine facette de la colonisation et de la découverte du Nouveau Monde. Peut-être ça revient techniquement au même. Toujours, le but va être, nous, de créer une appétence. Et tu vois, je rebondirais, mais c'est pas sur ce même sujet-là. Tu parlais des modes, etc. Et combien il y a de groupes aujourd'hui sur les réseaux sociaux, Facebook, Discord, etc., de gens qui discutent autour d'un même jeu. Je prends les jeux Paradox ou même les jeux Assassin. Il y a des discussions folles à partir de ce que le jeu montre et les joueurs vont eux-mêmes faire des corrections ou apporter des précisions. Donc ça veut dire qu'ils sont allés faire des recherches. Quand on regarde les fandoms, les wikis de fans de certaines franchises, c'est hallucinant le nombre de recherches et de vraies infos qu'on peut trouver dessus. Pour les Call of Duty, par exemple, c'est exceptionnel. Et puis, tu as même des joueurs qui vont s'emparer des codes, des moteurs de jeu et créer leur propre mode historique. Il y en a un qui est hyper connu dans Rome Total War 2, je crois. C'est le mode Europa Barbarorum, où le jeu, donc c'est un mode vraiment historique sur l'Antiquité et sur le bas Moyen-Âge, le haut Moyen-Âge, pardon. Et le mode commence, tu as un petit parchemin au début. Georges Duby a dit. Et vous connaissez pas Georges Duby, mais Georges Duby, c'est le père de la médiévistique, enfin de l'histoire médiévale française, quoi. Enfin, personne connaît Georges Duby.
C'est donc la Rosetta des médiévistes.
Ouais, voilà, c'est le premier historien à avoir été à la télé et tout. Enfin, et tu te dis, dans un jeu vidéo, j'ai vu le nom de Georges Duby, mais jamais j'aurais vu ça. Mais tu vois, voilà, ça va être du jeu de niche et des gens qui vont vraiment aller vers ça. Mais le jeu peut être aussi un outil de création pour des fans, pour des historiens, etc. Et c'est en train de venir. Ça va venir comme les historiens se sont emparés de la BD, se sont emparés du cinéma, et voilà, ça va petit à petit, ça prend.
On verra ce que ça donnera avec la réalité virtuelle, les nouveaux casques qui arrivent. Ça sera vraiment de la visite virtuelle qui va te le. Bon, en même temps, pour une classe, il faudra tous se passer le casque. Je suis pas certain que ça sera le.
Alors déjà qu'on a du mal à acheter des ordinateurs, alors des casques VR. Je t'explique pas.
Albert, tu voulais. Oui, tu voulais ajouter quelque chose.
Une remarque à ce que dit William, c'est effectivement, moi je pense aussi que toute cette histoire au final, c'est qu'il faut que tous les acteurs de la chaîne doivent effectivement pouvoir s'emparer de ce média pour arriver à créer le support pédagogique. Mais surtout, il faut que derrière, en plus, il faut créer le support qui fasse en sorte que des élèves puissent se l'approprier. Mmh. Je veux dire, effectivement, ce serait, comme le dit William, c'est impossible de mettre des élèves de 6e ou même plus âgés devant le Discovery Tour d'Assassin's Creed en espérant qu'ils en retiennent des choses. Parce que c'est déjà, en soi, jouer aux jeux vidéo, c'est déjà des compétences à prendre. Il y en a plein, ils sont pas familiers avec les contrôles d'un jeu en mode à la troisième personne, comme ça.
Ah oui, ça existe, enfants qui n'ont pas l'habitude de ce genre de contrôle.
Oh, attends, il y a plein de gamins, ils sont pas fichus de savoir ce que c'est un lien. Hein.
D'accord, ok. Donc, bon, là, il y a un autre travail d'éducation à faire, alors, peut-être.
Non mais oui, c'est ça, mais le c'est truc,
un,
c'est que
je trouve que c'est un. Je suis au courant de ces théories. Non mais c'est il y a un aspect apprentissage de la manette, etc. Mais de la même manière qu'il y a l'apprentissage du maniement du stylo et du maniement de la langue, en fait. Donc moi je trouve que c'est un faux problème parce qu'en fait peu importe l'outil qu'on va utiliser, quand ça va être un nouvel outil, on va forcément perdre une heure, deux heures à manipuler l'outil. Quand tu fais apprendre à des gamins à écrire sur un traitement de texte. Ils vont d'abord galérer une heure à se connecter sur l'ordinateur parce qu'ils ont du mal avec leur code, etc. Donc tu vas forcément perdre du temps là-dessus, mais c'est du temps perdu pour autre chose. Et parce qu'une fois qu'ils auront maîtrisé ça, ils pourront accéder à d'autres choses. Donc
je sais pas si ça prend qu'une heure d'apprendre à maîtriser la manette, hein, mais enfin, oui, non, moi ça m'a pris plus longtemps. Mais
le Discovery Tour, il y a moins de contrôle qu'un Battlefield. Sûr, mais tu vois, le fait que, par exemple, je prends un exemple, j'ai fait Battlefield 1 avec des élèves de 3e. Le fait qu'ils ne maîtrisent pas la manette, bah en fait, moi, ça m'a été un grand service parce que, au final, un joueur qui joue à la guerre en ne maîtrisant pas la manette, ça revient au même qu'un soldat, attention, toute proportion gardée, qu'un soldat novice qui n'a pas eu de formation militaire et qu'on envoie à la bataille avec un fusil alors qu'il ne sait pas comment il fonctionne, comment le recharger ou ce genre de choses. Et encore une fois, c'est pas parce que c'est pareil, mais moi, je m'en suis servi pour évoquer cette réalité-là, en fait. Tu vois ce que je veux dire ?
Je comprends, oui, tu rebondis et tu l'utilises pour...
Voilà.
Mais vas-y, finis, Albert, quand même, parce que...
À l'école, c'est le prof.
Ouais.
Bah, c'est, après, voilà. Après, moi, je évidemment, moi, en plus, je suis pas dans la position du prof, donc effectivement, j'imagine que quel que soit... toi, en plus, je veux dire, William, je sais que tu as énormément de capacité à rebondir, justement, sur ce genre de cas, mais je pense que de manière générale, on ne peut pas apprendre... Comme on ne peut pas utiliser un support comme un film directement comme ça, sans aucun prérequis, le jeu vidéo, on n'apprend pas seulement l'histoire, on apprend aussi à se servir d'un jeu vidéo, et donc ou en tout cas à jouer à un jeu vidéo. Et donc, il y a aussi cette composante à prendre en compte, quoi. Si jamais, justement, on essaie de supprimer ce côté très ludique, autant leur filer tout de suite les fiches pédagogiques qu'il y a dans le codex de Kingdom Come, quoi.
C'est pas évident de trouver l'équilibre justement entre ces deux extrêmes, l'aspect vraiment jeu vidéo et puis l'aspect vraiment éducatif. il y a quelque chose peut-être à faire, mais...
Là, on a beaucoup parlé d'école, mais tu vois, moi, je suis vraiment dans l'éducation aussi, enfin, pour l'éducation populaire, et penser aussi aux gens qui vont quitter l'école, tu vois. Enfin, moi, en fin de troisième, t'as 40% des élèves qui vont pas aller en seconde, hein. Donc, il y a eu aussi une grande partie de la population. Et, enfin, l'éducation, ça se fait tout au long de la vie, si tu veux, et je pense qu'il y a aussi beaucoup de travail à faire avec des personnes qui ont quitté l'école assez tôt ou des gens qui n'étaient pas très attentifs, ou, etc. Et
mais c'est Laurent Turcot qui... Pourquoi tu parles de moi, enfin, moi, j'étais pas attentif, mais enfin, quand même.
C'est Laurent Turcot qui a été consultant sur Unity, mais qui a aussi sa chaîne d'histoire de Vulga... Qui a écrit un bouquin sur Unity, et à la fin, il a la bonne phrase, il dit « Si le jeu a permis, a donné envie à des joueurs d'aller consulter un site internet et de ce site internet à un autre, et en toute fin, si jamais un bouquin d'histoire, scientifique ou grand public, ben le jeu, il aura peut-être fait beaucoup plus que n'importe quel prof d'histoire, parce qu'il faut avouer, moi, je disais mes élèves, je ne sais pas si après un cours, on va dire normal ou un cours classique comme on doit les faire, je ne suis pas sûr que j'ai réussi à leur faire naître l'envie d'en apprendre plus sur... la montée du nazisme dans l'entre-deux-guerres, sur les camps de concentration. Enfin, voilà. C'est une vraie question, en fait, en tant que pédagogue, tu vois. Il n'y a pas de vraie réponse, mais je pense que c'est un outil qui peut permettre ce genre de choses chez les élèves, mais aussi chez les adultes.
C'est marrant parce que moi, je fais partie des gens qui étaient dans la vague jeux vidéo et manga dans les années 90. Et c'est vrai que j'ai commencé avec les dessins animés et les jeux Nintendo. Et au final, j'ai fini par aller à l'université pour apprendre ce qu'était le Japon et à vivre au Japon et à en faire une sorte d'immense partie de ma vie. Et ça a commencé avec les chevaliers du Zodiac qui se battent contre
Bien
les chevaliers
sûr.
D'or.
Mais tu vois, là, dans le collège, j'ai un atelier de création de jeux de pistes géolocalisés et je m'en sers pour faire écrire des petits jeux de pistes sur l'histoire de la ville de Thiers où je bosse. Et du coup, les gamins, il faut qu'ils fassent des recherches sur l'histoire de la ville, ensuite qu'ils inventent vraiment une histoire pour faire jouer les joueurs, des énigmes en rapport avec le patrimoine ou avec les personnages historiques. Et l'année dernière, j'avais une élève qui avait été extrêmement douée en dessin. Elle passait plus de temps à dessiner sur son cahier d'histoire qu'à m'écouter. Et là, dans cet atelier-là, du coup, elle a fait des recherches sur le personnage qui était dans le jeu, qui était George Sand. Et du coup, elle a fait 3 sprites de George Sand, une contente, une mécontente et une joyeuse. En forme manga en fait et maintenant elle est en art appliqué et du coup il y a cette idée d'éducation au métier aussi des jeux vidéo, je pense que c'est un aspect très important de cet usage des jeux qu'on peut avoir en classe mais aussi auprès du grand public, hein. Comment ça se fait un jeu, parce qu'on fait toujours le langage cinématographique, le réalisateur, le directeur de la photographie, le scénariste, même si souvent c'est souvent les acteurs principaux et les réalisateurs qui sont invités, mais dans le jeu vidéo il y a une méconnaissance un peu de ces différents métiers qui sont souvent pris par une seule personne dans les petits studios, voire les studios indépendants. Mais en fait, ces différents métiers, ces différentes compétences qu'on va pouvoir ensuite former dans les écoles, etc., et montrer que... Moi, je sais que si j'avais été mieux orienté, j'aurais peut-être pas fait un bac S, que j'ai failli y gratter, mais peut-être que je serais plutôt allé en L, parce que j'avais cette fibre créatrice et que j'aurais pu devenir scénariste de jeux vidéo, j'en sais rien, tu vois. Ouais. Enfin, et je pense que...
Il n'est pas trop tard, William. Clairement, il y a du travail. Donc. Mais du coup... On va en dernière partie, j'aimerais qu'on parle quand même de cette question de la manière dont les développeurs accomplissent, peut-être on ne pourra pas plonger dans tous les détails, mais accomplissent le travail de respect, de fidélité historique autant qu'ils peuvent, ou en tout cas font la partie académique, avec des guillemets, du boulot. Du côté des développeurs, est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu, pas, encore une fois, pas en grand détail, mais sur la manière dont ça se passe? Il y a des gens dans les équipes de développement dont on dit « bon, bah, toi, c'est le boulot, c'est ton boulot de t'assurer qu'on ne fait pas de conneries, tu te démerdes ». Ça se passe comment? Peut-être que, William, encore, tu as... Ou je ne sais pas si, Albert, toi, tu as une maîtrise sur cette question, mais...
De ce que j'avais expliqué tout à l'heure, c'est que la plupart du temps, c'est pas leur métier d'être historien, et donc c'est pas des questions qui vont venir naturellement. Au début, ça a même tendance à entraver pas seulement les objectifs de développement, mais les objectifs de manière générale de l'éditeur. C'est-à-dire que de manière générale, l'histoire est un bon argument marketing, mais ce qui est aussi un bon argument marketing, c'est la baston, le fait d'être un assassin, c'est le fait de... C'est ça aussi, il y a des objectifs qui doivent concorder et qui forcément orientent forcément le discours ou même le gameplay et forcément vont obliger des incartades avec l'histoire. Et ça embête pas mal les développeurs. Mais c'est pour ça notamment que ils sont en permanence dans un processus de négociation avec leur consultant historique ou avec la personne qui est en charge de s'assurer de la fidélité à l'histoire, parce que ça, sinon ça poserait problème. Ça poserait problème. Attendez, je rassemble un peu mes idées, pardon.
Vas-y, on n'a aucune pression, on est entre amis. Mais oui, c'est ça, c'est que le truc, c'est qu'au départ, on te dit, tu vas devoir, toi, t'assurer qu'on ne fait pas de conneries. Et si tu es trop fidèle, c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure, si tu essayes tout à coup d'être l'agent de sécurité la fidélité historique, tu ne peux plus faire un jeu. Donc forcément, il faut que tu fasses des compromis. Ouais.
Mais encore une fois, ça dépend, parce que tu prends les premiers Kriegsspiel ou les premiers Wargames dans les années 80, vraiment les jeux qui simulent les batailles, etc. Quand tu regardes les caractéristiques techniques des unités, des chars d'assaut, des fantassins, etc., tu as une précision sur vraiment leur capacité technique, etc., qui est assez folle, parce que c'était des gens, déjà à l'époque, on faisait beaucoup plus d'histoire militaire qu'on en faisait aujourd'hui, et ces gens s'informaient beaucoup sur les armées, etc., et c'est un sujet qui plaisait beaucoup. Et tu as beaucoup de wargame, quand ils jouent, tu as vraiment l'impression. Alors des fois, c'est un peu trafiqué, ça raconte un peu n'importe quoi, les panzers sont trop puissants, etc. Donc, oui. Mais tu vas avoir quand même une certaine précision historique qui est assez remarquable. Parce que souvent, on se concentre beaucoup sur le côté graphique. Voilà, parce que le réalisme, c'est le graphisme. Et avec le photoréalisme, on en est venu à dire « Ah ouais, c'est beau, c'est vrai, c'est réaliste, c'est tout. » Mais souvent, un bon jeu en point and click ou un jeu un peu moche peut être très juste historiquement, parce que moi, je suis un fervent, je suis plus gameplay que... Je m'intéresse vraiment à ce que le joueur peut faire, ne peut pas faire, doit ou ne doit pas faire dans le jeu. Parce que ça dit des choses sur l'histoire aussi. Et forcément... les développeurs qui vont coder, imaginer déjà les règles du jeu, les game designers, les level designers et tout ça, ils vont devoir s'informer sur qu'est-ce qu'on peut faire à l'époque, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire dans la situation où est le personnage. Et du coup, ils vont avoir besoin de personnes pour les renseigner. Et donc, tu as des studios qui vont vraiment recruter des personnes dont c'est le métier de s'informer, donc ces fameux consultants historiques qui existent aussi dans d'autres domaines culturels, hein, le cinéma par exemple. Et bon, ceux que je connais le mieux et qui en parlent le plus aussi, c'est Ubisoft, hein, on va pas se mentir, hein. Ils parlent beaucoup là-dessus, ils font beaucoup de conférences pour expliquer leur processus, etc. Donc il y a un vrai département recherche qui était à l'époque dirigé par Maxime Durand, qui était historien de formation à Québec. Aujourd'hui encore, même sur des jeux non historiques, Ghost Recon, les Ghost Recon Wildlands, c'est le tout dernier, du coup je sais plus si c'est celui-là, mais ce qui se passe en Amérique du Sud, un des consultants ça a été et son nom m'échappe, voilà, juste, j'ai sa photo dans la tête mais son nom m'échappe, mais c'est un historien spécialiste d'Amérique du Sud. Et quand tu regardes le dernier Far Cry qui se passe dans un pseudo Cuba, comme par hasard c'est le même bassin culturel que le consultant qui a été recruté. Et donc ces gens-là, leur métier, c'est à la fois de faire des recherches parce qu'ils savent le faire, d'aller chercher des gens qui savent, donc pour organiser des conférences, mobiliser, avoir des liens avec les musées, avec les organisations culturelles, etc., pour permettre aux créatifs de pouvoir imaginer des choses. Mais forcément, comme Albert l'a très bien dit, les créatifs, eux, ils ont d'autres enjeux. Il faut que ce soit beau, il faut qu'il y ait de l'émotion, il faut que ce soit impressionnant, il faut qu'il y ait un peu d'épique ou... il faut qu'il y ait du suspense, il faut qu'il y ait du jeu aussi. Donc forcément, on va trafiquer, on va aller dans la fantasy et on va trafiquer 2-3 trucs. Mais ça va être une fantasy à base d'eux.
Ouais.
Au final, ce seront toujours les développeurs et les créatifs qui auront le dernier mot. Ce sera jamais l'historien ou le consultant historique qui pourra trancher.
Oui, bah forcément, vois, en fait.
On parlait de Kingdom Come et j'ai pas pu sortir mon exemple. Je l'ai traité en vidéo, mais je l'adore. C'est la vidéo qui a le moins bien marché, mais j'adore. Quand tu es dans Kingdom Come, tu parlais du coffre, justement. Celui qui t'apprend à crocheter le coffre, c'est le meunier. Voilà, tu es recueilli par un meunier. Oui. Son boulot, c'est de moudre du grain. Et il t'apprend à crocheter. Moi, j'ai vu ça, mais j'ai sauté du siège. J'ai sauté de ma chaise. Je me dis, mais quoi? Mais pourquoi le meunier? Mais... etc. Et j'en ai parlé avec mon directeur de recherche à l'époque. Et il me disait, mais vous avez cherché si à l'époque, enfin, quel était le regard que portait la société sur le meunier? Il me dit, non, je n'avais pas cherché. Donc j'ai cherché, j'ai galéré. Là, il ne faut pas 5 secondes pour trouver l'info. Hein. Et j'ai trouvé des vieux fabliaux du 14e siècle où vraiment le meunier, c'est le pire du village, quoi. C'est le mec qui vole tout, le grain, la farine. Et il y a même un fabliau où il tente de voler la nana de l'agriculteur, du paysan qui est venu moudre son grain, quoi.
Ah, il n'y en a pas qu'un.
Oui, voilà, mais tu dois les connaître, ces Fabio, c'est génial.
Et donc, ce n'est pas si incohérent que ça.
C'est pas faux, ce n'est pas incohérent dans le contexte de l'époque. Ah, par contre, tous les meuniers n'étaient pas des voleurs, mais du coup...
oui, j'ai entendu parler de cette théorie.
Le cliché de l'époque, c'était ça, et je trouve ça intéressant. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir que est-ce qu'ils ont vraiment consulté ces Fabio ? J'en sais rien, je n'ai pas pu contacter l'équipe. Mais moi, ce qui me fait marrer, c'est de dire c'est une réalité du Moyen-Âge qu'ils ont essayé de transcrire dans un truc de gameplay. Et au final, le joueur, il a eu sans doute ou pas la même question que moi, c'est mais les meuniers, ils étaient vraiment des voleurs, ils étaient vraiment un réseau de receleurs, machin. C'était pas un réseau aussi développé et construit que ça, mais ça fait partie de l'imaginaire du Moyen-Âge. Le seul truc qui va manquer dans le jeu, c'est quelqu'un pour dire « Vous voyez ça, c'est vrai. »
Ouais,
et
c'est ça qui,
du coup, le joueur, il va devoir s'informer, il va devoir confirmer cette information et en fait de passer de l'information au savoir. Et il a besoin de quelqu'un pour confirmer ça. D'où l'intérêt de s'abonner à ma chaîne YouTube ou au compte Twitter d'Albert, évidemment.
Je pense que c'est la meilleure conclusion qu'on pouvait faire possiblement à cette émission. Allez vous abonner à Histoire en Jeu. Allez sur Twitter pour suivre Albert. Merci beaucoup à tous les deux. C'était absolument passionnant. J'ai l'impression d'avoir appris beaucoup de choses sur tout ce que je ne comprends pas et de mieux savoir pourquoi je ne sais pas. Et ça, c'est déjà le début de quelque chose. Donc, un grand, grand merci à tous les deux. Avant de se quitter, encore une fois, peut-être l'occasion pour vous de nous dire où on peut vous retrouver. Je vais commencer par Albert. Le compte Twitter, tu nous rappelles
le compte Twitter, donc Albert Devanve, at Relinus avec deux S, et la chaîne Twitch Albert Devanve. Je ne suis alors voilà le truc c'est qu'effectivement contrairement à William je n'arrive pas du tout à gérer mon emploi du temps et donc j'ai énormément de mal à être régulier sur ces réseaux mais ce qui est sûr c'est que toutes les deux semaines à peu près je fais justement une revue d'actu de la recherche et aussi de la vulgarisation au niveau de l'histoire médiévale et ça permet au passage d'évoquer beaucoup de jeux qui vont sortir beaucoup de en rapport avec le Moyen-Âge, en tout cas beaucoup de jeux qui vont sortir et beaucoup de thèmes historiques qui tentent d'être traités par la recherche en ce moment et ça me tenait à cœur de faire ça depuis un moment et j'essaie au moins de m'en tenir une fois toutes les deux semaines.
Eh ben écoute, on espère que tu vas pouvoir continuer et que ton Covid ne va pas t'en empêcher. William, où es-tu, qui es-tu?
Oui, déjà, vraiment, abonnez-vous à son compte Twitter, c'est vraiment une merveille. Et pour moi, du coup, je suis présent sur YouTube principalement. Je viens de me lancer sur TikTok pour les plus jeunes d'entre vous.
Les TikTok sont super.
Merci. donc, je tente le format court sur YouTube et TikTok, mais ça marche mieux sur TikTok. Je suis aussi sur Twitch, Histoire en Jeu, avec une petite pause en ce moment, parce que voilà, c'était compliqué avec le boulot, mais d'ici la rentrée, il y aura un rythme plus régulier et de nouveaux formats d'émissions. Et les réseaux sociaux, Instagram, Facebook ou Twitter, pour être tenu un peu au courant des différentes infos, même si je parle assez peu sur Twitter. Je préfère les autres. Mais donc, ce sera avec plaisir de vous accueillir. Il y a un Discord qui n'est pas encore trop vivant, mais que j'essaye d'animer le plus possible.
Eh bien, écoute, le lien vers le compte Twitter sera dans les notes de l'émission. Ça sera le cas pour Albert aussi. Donc, à partir de là, vous pourrez retrouver tout le reste.
Exactement.
Donc, allez voir YouTube, TikTok, Twitch de nos deux camarades. Et pour ma part, c'est NotePatrick, hein, NotePatrick.com, NotePatrick sur tous les réseaux sociaux. Bien sûr, n'oubliez pas le Patreon, patreon.com/rdvjeu, si vous voulez soutenir l'émission, si vous voulez envoyer quelques sous dans notre direction pour qu'on puisse continuer à faire cette émission. J'espère vous apprécier. Et puis, alors, je ne sais pas exactement comment se passe le programme de l'été, mais il y aura peut-être un animateur invité qui fera le prochain épisode d'actu. Peut-être que ça sera autre chose, peut-être qu'il n'y aura pas d'épisode même. C'est un petit peu compliqué, mais on sera de retour, bien sûr, dans pas trop longtemps, donc ne vous inquiétez pas. Merci à vous tous d'avoir écouté l'émission. J'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez venir en discuter sur notre Discord, où il y a des gens de grande qualité et de grande qualité et très bienveillants. C'est des gens sympathiques. Le lien est sur notepatrick.com, comme tous les autres liens de tout ce que je fais. Merci encore à Albert et à William. Et on se retrouve dans très très vite pour un prochain épisode. Ciao.
Merci beaucoup. À bientôt.
Merci beaucoup, Patrick.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.